Ce matin, le passage, je l'ai intitulé « Notre foi est-elle aveugle? » On a lu le chapitre de Matthieu où il parle de la maison qui était bâtie sur le roc et la maison qui était bâtie sur le sable. Puis, avant de commencer, je voulais souligner que je pense que Noah, il s'en rendu compte, là, j'ai pas dit, il y a eu 6 mois aujourd'hui. Mon petit gars, il y a eu 6 mois aujourd'hui ce matin. pour retourner, Matthieu 7, versets 24 à 27. Je fais un parallèle avec notre foi, qui est comme une maison qui doit être bâtie sur quelque chose. Puis, je voulais aujourd'hui vous inviter à inspecter les fondations de notre foi, qui est une foi chrétienne, comme vous le savez bien. Paul nous en parle dans Éphésiens 4, verset 14, quand il dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc, le parallèle ici est clair. On parle de vent de doctrine. Plutôt, on parlait dans Matthieu de vent. Le vent a soufflé, la maison est partie ou la maison est restée, dépendamment si c'était bâti sur le roc ou si c'était bâti sur le sable. Aujourd'hui, pourquoi on fait cette introspection-là? On voit dans les épîtres de Paul qu'il, plus d'une fois, il a été appelé devant les autorités à défendre sa foi. Entre nous, entre frères et sœurs, entre chrétiens, c'est facile d'être croyant. On n'est jamais confronté à quelque chose de dur ou quoi que ce soit. On n'a jamais vraiment besoin de défendre notre foi parce qu'on se comprend tous. On a des expériences qui nous ont aidé à bâtir notre foi. Mais si je voulais seulement vous poser la question, on vous appelait à un moment donné à défendre votre foi, à donner des arguments. On parle comme s'il y avait un tribunal, lui donner des arguments qui défendent votre foi. Est-ce que vous seriez à court d'arguments? Est-ce que vous surprendriez à ne pas avoir beaucoup d'arguments pour plaider en faveur de votre Dieu? Je sais que Kate qui a chanté, puis merci Kate d'avoir chanté, elle pratique le métier d'avocate. Je ne pense pas qu'elle pourrait plaider une cause sans avoir bien préparé sa cause. C'est un peu le même principe pour nous. Donc aujourd'hui, je vous invite à... On va tous être des inspecteurs en bâtiment, puis on va inspecter des fondations. La nôtre, mais une autre aussi. Avant de faire, on va prier tout le monde. Père éternel, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin. Alors que je vais prendre la parole, Seigneur, parle à travers moi, afin que tes enfants soient édifiés et que je le sois en même temps, Seigneur. Permets que ce qui soit dit ait un effet, et que ce qui ne doit pas être dit ne soit pas dit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Il y a une expression en anglais qu'on appelle « blind faith ». Vous la connaissez peut-être, puis en français, on pourrait dire « une foi aveugle ». Mais est-ce qu'on peut savoir, on peut se poser la question, est-ce que notre foi est aveugle? Si on dirait une question piège, parce que des fois on dit « oh mais moi j'ai une foi aveugle, moi j'ai une foi aveugle en mon Dieu ». Attention, il faut faire attention. On peut avoir une confiance aveugle en quelqu'un. Mais si vous avez une foi aveugle, c'est-à-dire que votre foi ne se base sur rien. Puis je ne pense pas que c'est votre cas, je l'espère que non. Alors une croyance, une confiance aveugle en quelqu'un, bien, ça témoigne, par exemple en Dieu, ça témoigne d'une foi qui est bâtie sur quelque chose de solide, qui fait que par cette foi-là, vous avez confiance aveuglément. Il y a la foi sur Terre, on est peut-être, plusieurs milliards d'individus, puis il y a plusieurs fois qui est partagée entre les habitants de notre Terre. On va en répertorier quelques-unes ensemble. Il y a le bouddhisme. J'ai répertorié les plus grandes selon moi. Le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme. Il y a l'islam. Il y a l'évolutionnisme. Il y a, je ne vais pas nous oublier, le judaïsme. Et ce que j'ai mis le postmodernisme, le nouvel âge. J'ai un petit peu une amalgame de tout le reste, un petit peu un mélange. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là? C'est qu'aujourd'hui, à notre époque, on est dans l'époque du postmodernisme. En passant, on va réfléchir un peu ce matin, OK? Je vais avoir des choses qui vont vous faire cogiter. Puis je pense que ça va vous tenir réveillé. Le postmodernisme, c'est l'ère qui est après le modernisme, après l'ère moderne. Puis, qu'est-ce qui caractérise beaucoup le postmodernisme de nos jours? C'est la façon que la vérité est relative. Les choses sont relatives. Les valeurs sont un peu mises de côté au profit de la tolérance. Parce qu'on entend beaucoup parler aux médias, surtout au Québec, des accommodements raisonnables puis des différentes religions. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous en entendez beaucoup parler. Mais on met beaucoup des valeurs de côté au profit de la tolérance comme étant la seule unique et valeur qui devrait rester de nos jours. La tolérance. Il faut tolérer ci, il faut tolérer ça, il faut tolérer tout le monde. Ce qui amène le principe de la vérité est relative. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Il y a une phrase que j'ai lue la semaine dernière qui dit « Est-ce que votre religion est vraie parce que vous y croyez ou est-ce que vous croyez votre religion parce qu'elle est vraie? » Puis cette question-là, posez-vous-la à vous-même. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez découvrir si vous avez une foi bâtie sur de solides fondations. Est-ce que le principe que ce que je crois est vrai parce que je le crois tient la route, selon vous? C'est vrai parce que je le crois. Est-ce que vous trouvez que ça se tient? Est-ce que ça tient la route? Ça ne tient pas la route, je crois, parce que c'est vrai. Parce que si c'est ça, puis comme beaucoup aiment le dire, c'est que, bon, ben toutes les religions, toutes ces choses-là, mais ils mènent toutes à la même place. Autrement dit, c'est plusieurs chemins à la même place. Ils sont toutes vraies. Mais il y a un problème fondamental avec cette affirmation-là, de dire qu'ils sont toutes vraies. C'est que, premièrement, il y a tellement de points qui sont qui sont opposés, carrément. C'est-à-dire, on ne peut pas descendre et de Adam et du singe. C'est opposé. On ne peut pas, après la mort, se réincarner et aller au paradis directement et être en attente d'un Messie. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas dire qu'ils sont toutes vraies, ça ne tient pas la route. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont partiellement vrais? Ils ont tous un peu de vérité. Bien, on pourrait dire ça. Mais il y a un problème là aussi, c'est que s'ils sont partiellement vrais, sont partiellement fausses aussi. S'ils sont partiellement vrais et partiellement fausses, c'est que toi, tu dis, ben écoute, moi, je crois un peu là-dedans parce que moi, ça, je pense que c'est vrai. Mais on revient à la case départ, c'est-à-dire que c'est vrai parce qu'on le croit, on choisit, on est comme un peu au buffet, puis on dit, ah, moi, j'aime un peu des croyances dans le bouddhisme, ah, moi, j'aime un peu des croyances dans l'hindouisme, puis on choisit, puis on se fait nos propres croyances avec ça. Mais on revient à la case départ qui dit que les choses ne sont pas vraies seulement parce qu'on y croit. Est-ce qu'on pourrait dire que sont toutes fausses? Bien, ça tiendrait la route. On pourrait dire, bien, ils sont toutes fausses. Mais il y a un problème fondamental avec dire qu'ils sont toutes fausses. C'est-à-dire que vous sauriez ce qui est vrai. Or, c'est notre point de départ. On ne sait pas ce qui est vrai et on veut trouver, c'est quoi cette vérité-là? Je veux aller bâtir ma maison sur cette vérité-là. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire, bon, bien, écoute, il y a une seule raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Il y a une raison, c'est-à-dire il n'y a pas le Big Bang et Dieu qui a créé et les extraterrestres qui ont manigancé les humains. Il y a une seule vérité. On pourrait dire une seule est la vérité et la vérité complète de A à Z, au complet. C'est une déclaration qui tient la route. Ce n'est pas dit qu'on serait capable de discerner cette vérité-là. Ce n'est pas dit que dans notre vivant, on pourrait, un être humain, je parle d'un être humain au sens général, pourrait se dire, moi, je vais trouver cette vérité-là. Mais ça serait correct de dire, peut-être qu'il y a un seul chemin à cette vérité-là. Donc, on va inspecter deux fondations qui m'ont jugé les plus importantes. La première que nous allons inspecter, c'est celle de l'évolution. Puis la deuxième que nous allons inspecter, c'est celle du christianisme. Pourquoi l'évolution? C'est parce que dans notre contexte à nous, c'est celle qui nous menace le plus. Surtout les gens qui sont dans l'Église déjà, elle pose des problèmes, des graves problèmes parce qu'elle est complètement contradictoire avec la version que nous, chrétiens, nous croyons. La deuxième, ça va être le christianisme pour savoir, si on est chrétien, c'est-à-dire que la parole est notre... l'autorité de la parole. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un de non-croyant que je crois en l'autorité de la parole de Dieu? Si quelqu'un dit, mais pourquoi tu crois là-dedans? Qu'est-ce qui te fait croire là-dedans? Il faut qu'on puisse savoir pourquoi on croit là-dedans. On ne peut pas juste dire, je crois parce que je crois. La personne qui te pose la question, elle risque de ne pas être satisfaite de ta réponse. Si tu lui dis, je crois parce que j'ai des expériences avec Dieu, c'est bien d'avoir des expériences avec Dieu, à cause que c'est ce qui bâtit et qui aide à progresser votre foi, mais quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, ça ne veut rien dire pour lui. Il ne l'a pas eu. Il dit, montre-moi là ton expérience. Il ne l'a pas vécu par lui-même. Une expérience, c'est bon pour quelqu'un qui est déjà chrétien, pour fortifier sa foi. Alors, pourquoi j'ai décidé de choisir l'évolution? Premièrement, c'est que la communauté scientifique, c'est ce qui est globalement accepté de nos jours. La théorie de l'évolution qui dit qu'il y aurait eu un Big Bang qui aurait explosé, que la vie se soit générée par pur hasard, si on donne suffisamment de temps. Je me suis dit, c'est une façon de voir les choses. Allons inspecter cette façon de voir les choses-là. Allons voir si c'est basé ou c'est fondé sur quelque chose avant de juste dire, « Ah, moi, je ne crois pas là-dedans. Tu peux pas, je veux pas. » Non, allons voir, allons vérifier. Puis c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont encore à l'école, à l'université. Il y en a qui sont à l'école encore. Je vous aime ça voir si c'est à l'école. Ceux qui sont déjà allés à l'école. Est-ce que vrai ou faux, vous entendez souvent parler d'évolution? Continuellement. Comme si c'était un fait prouvé. Parce que c'est globalement accepté. On s'attaquait à ça. Il y a deux grandes lois qui régissent. Bien, il y a plusieurs lois, mais parmi celles des lois qui régissent la biologie, il y en a deux principales. Il y en a une qui dit que la vie est issue de la vie, puis une qui dit que le semblable donne du semblable. Or, pour croire en l'évolution, il faut croire que l'inerte a donné la vie et que le semblable a produit du non-semblable. Parce que, autrement dit, c'est ce qui serait arrivé, c'est que des composés chimiques non vivants inertes auraient donné naissance à une cellule, puis à un être qui s'est développé par la suite, qui est à l'opposé des bases du principe de la biologie. Un deuxième, c'est que le semblable produit du semblable. Or, si on croit dans la théorie de l'évolution, il faut croire, parce que jamais on a vu, disons, une guenon, la femelle du singe, donner une portée de chiot. C'est jamais arrivé. Une guenon a toujours donné des guenons. Puis, parenthèse, on n'est pas en train de dire que, selon la version biblique, l'être humain et les animaux et tout ça n'ont pas de capacité d'adaptation. C'est totalement différent. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont la peau noire? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont la peau blanche? Pourquoi est-ce qu'il y a des différences un petit peu sur les différents types d'animaux au travers la planète? Mais c'est parce qu'il y a différences de climat, différences de milieu et tout ça. Et oui, il y a une capacité d'adaptation, mais c'est très différent de la théorie de l'évolution. Très différent. Juste pour mettre en évidence que la création et l'évolution, c'est-à-dire le récit biblique et le récit scientifique sont opposés, je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter ici juste rapidement pour qu'on comprenne que ça ne va pas ensemble. Parce que même dans l'Église, il y a des personnes qui sont croyants, qui sont chrétiens, mais qui laissent la place ouverte à la théorie de l'évolution. Puis, il faut comprendre que les deux se contredisent. Premièrement, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa ». L'évolution nous dit, au commencement, il y a eu un Big Bang. La Bible nous dit que la création est en 6 jours littéraux. Pas 6 milliards d'années, un jour vaut 1 milliard d'années. Non, c'est pas ça dans la Bible, dans le mot hébreu qui est employé, qui est « yot », si je ne me trompe pas. Quand ce mot-là est employé, c'est pour un jour littéral. Or, l'évolution nous dit que la création s'est faite en 1 milliard d'années. La Bible nous dit « La vie vient du haut des cieux, de Dieu, du haut des cieux, par la parole et le souffle de Dieu. » L'évolution nous dit « La vie vient du fond de l'océan, par un pur hasard de combinaison chimique. » Déjà, visuellement, il y a une opposition par rapport à du haut des cieux puis du fond de l'océan. Je veux dire, c'est déjà... La Bible nous dit « L'homme a été créé à l'image de Dieu, parfait à l'origine, mais plus le temps avance, le péché dégrade sa condition. » L'évolution nous dit de rien à créature marine imparfaite qui s'améliore avec le temps, puis du singe très peu intelligent est né l'homme très intelligent. La Bible nous dit qu'Adam, il était très grand, puis en ce temps-là, et puis là, nous, on est rendu très petit. La Bible nous dit la mort est le résultat du péché et est un ennemi dans la Bible. L'évolution nous dit la mort est nécessaire à la sélection naturelle, donc l'ami du processus. Est-ce que vous comprenez que c'est vraiment opposé? On ne peut pas croire en un et croire en l'autre parce que les deux se contredisent. Puis, dernièrement, puis ça on va revenir plus tard quand on va parler du christianisme, le péché explique la nécessité d'un sauveur. Or, dans l'évolution, il n'y a pas de mort, c'est-à-dire qu'il y aurait pas, la mort n'est pas le résultat du péché, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin d'un sauveur. Ça touche plus le volet christianisme qu'on va regarder tout à l'heure. Pour en venir à la théorie de l'évolution, on va inspecter encore les fondations. Dans la science, il y a beaucoup de lois, encore une fois, mais il y en a deux très importantes. Il y a les lois scientifiques, comme la gravité, puis il y a les lois des impossibilités scientifiques. Maintenant, on va parler un peu de mathématiques. Ceux qui aiment les mathématiques, vous allez être servis. Ceux qui n'aiment pas ça, suivez. C'est pas très compliqué. Une loi scientifique... c'est quand quelque chose se produit au moins 10 exposants 50 fois contre une chance d'échec. Est-ce que vous me suivez? La loi de la gravité. C'est-à-dire, je le laisse tomber, c'est tombé. Il faudrait que je le fasse 10 exposants 50 fois avant qu'il y ait une chance où les clés restent en l'air puis qu'ils flottent. Si ça excède ça, on appelle ça une loi scientifique, comme la loi de la gravité. Il y a d'autres lois. Maintenant, une impossibilité scientifique, c'est la même chose. C'est quand quelque chose ne se produit pas plus de 10 exposants 50 fois versus une fois où ça pourrait se produire. Fait que vous comprenez, c'est quoi la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, c'est impossible scientifiquement que si je laisse tomber mes clés, ils ne tombent pas par terre. Ces deux lois-là ont été mises à l'épreuve. Puis il est important de le savoir. Là, c'est sûr que vous allez pouvoir me dire, oui, mais ça, c'est des chiffres arbitraires. Qui me dit que c'est vraiment ça? Oui, peut-être c'est des chiffres arbitraires, mais c'est des chiffres trop gros pour être remis en question. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est trop gros pour être remis en question? Je vous donne un exemple. Si on voulait tester la théorie de la gravité, puis qu'on voulait l'essayer seulement 10 exposants 18 fois, tantôt on parlait de 10 exposants 50, seulement 10 exposants 18 fois, puis que je laissais tomber mes clés une fois par seconde, combien de temps vous pensez que ça nous prendrait? On n'est même pas rendu au chiffre qu'on voulait, là. Ça nous prendrait environ 15 milliards d'années. 15 milliards d'années qui seraient supposément l'âge de l'univers jusqu'à présent, selon la théorie du Big Bang. Alors, est-ce qu'on peut dire que 10 exposant 18, c'est même pas la moitié du chiffre qu'on parlait tantôt? Alors oui, peut-être on peut dire que ces chiffres-là sont arbitraires, mais ils sont tellement gros qu'on ne peut pas vraiment les mettre en question. Là, c'est le moment où j'ai fait des découvertes en lisant et tout ça, puis que je trouvais ça extraordinaire. La théorie d'évolution de Darwin dit que la vie s'est générée spontanément. Là, il y a un docteur qui s'appelle Michael Denton qui a été un des premiers à éprouver statistiquement ces probabilités-là. À éprouver statistiquement la théorie de Darwin. Il a analysé la plus simple des cellules. Fait que la cellule la plus simple, c'est une cellule qui se compose de 100 protéines. C'est le minimum requis pour une cellule. Il a fait des calculs, puis que la probabilité scientifique que 100 protéines, par hasard, s'assemblent ensemble, sont de 1 chance sur 10 exposants 2000. On parlait tantôt de 10 exposants 50. On parle de la plus simple des cellules. Autrement dit, jusqu'à présent, il y a un gros problème avec la théorie de l'évolution. C'est que pour y croire, il faut faire ce qu'on appelle en anglais « a leap of faith ». C'est-à-dire, on ne peut pas le prouver, ça ne s'est jamais produit, mais on y croit. On pense que ça va arriver. Un autre chercheur est allé encore plus loin, il s'appelle Harold Morovitz. Il a dit, tu sais quoi, je vais faire la même chose que Michael Denton, lui qui a fait sur la cellule la plus simple. Il dit, mais moi, je vais calculer les probabilités de la cellule la plus complexe, c'est-à-dire une cellule complète, je vais calculer comment il pourrait se réunir et puis par hasard ça pourrait arriver. Bien, ces calculs ont donné qu'il y a une chance que ça se produise sur 10 exposants 100 milliards. Écoutez, si Sabine elle dit « Ah, mais je vais essayer d'écrire 100 milliards pour le fun, ça va être le fun. Excuse-moi, 10 exposants 100 milliards. » Savez-vous que si elle écrit un zéro par seconde, ça va lui prendre plus de 3000 ans écrire le chiffre. C'est un chiffre monstrueux, énorme. Même s'il y a eu une erreur de calcul, là, puis que ça ne devrait pas être 10 à exposant 100 milliards, mais que c'est 10 exposant 50 milliards, est-ce qu'on on s'entend, on se comprend? Le message est clair. C'est important de le savoir. Il y a une image, si ceux qui ne comprennent pas les mathématiques, puis depuis tantôt je parle chinois, mais laissez-moi vous le donner en image. Pour qu'un corps humain qui est infiniment plus complexe qu'une simple cellule se produise par hasard, il faudrait que ce soit pareil comme si une tornade arrive dans une cour à scrap à Montréal, puis elle fait des ravages, mais puis pendant qu'elle fait les ravages, elle assemble une voiture au complet, elle fait le plein de la voiture, elle démarre la voiture. Ah, elle met ses pneus d'hiver aussi. C'est à peu près ça la possibilité que tout ça arrive par hasard. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est peu importe. Il y a peut-être beaucoup, beaucoup de raisons qui font en sorte que la communauté scientifique refuse de croire à tel ou tel procédé ou telle hypothèse. Mais là n'est pas le point. Le point est de savoir, si je vous pose la question, la question est lancée. Qui est le plus naïf? Celui qui croit en la magie, mais pas au magicien, ou celui qui croit au magicien et en sa magie? La question est lancée. Maintenant, dans la communauté scientifique, face à de tels chiffres, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, mais qui sont scientifiques dans le monde, et puis ça s'est séparé en deux clans. Il y a le clan qui ont gardé ferme la théorie de Darwin, qui s'est dit que ça s'est fait par hasard, puis il y a l'autre clan qui s'est dit « Je ne pense pas que ça puisse arriver par hasard. Je ne pense pas que quelque chose d'aussi complet, qui a un design, parce que c'est littéralement, les gens ils voient ça, ils disent qu'il y a un design, ça doit être qu'il y a quelqu'un qui l'a designé. » C'est-à-dire qu'il y a la théorie de, ben, dans le monde scientifique encore, on n'est même pas rendu au christianisme, mais les gens qui pensent qu'il y a Darwin, puis bon, la théorie de l'évolution, puis les gens qui parlent du « intelligent design ». Maintenant, ces personnes-là disent reconnaître qu'il y a probablement une intelligence quelconque qui a designé ça, parce que mathématiquement parlant, ça ne fait pas de sens, c'est impossible. Mais ils ne sont pas rendus plus loin dans leur démarche. C'est-à-dire que le designer, ils n'ont pas mis de nom dessus. Ils ne savent pas plus c'est qui le designer, c'est qui le dieu, c'est qui la force surnaturelle qui aurait été le designer. Maintenant, on va passer à ce qui nous concerne directement, puis c'est les fondations du christianisme. Est-ce que c'est une foi aveugle ou une foi bâtie sur le béton? Ça, c'est dépendamment de où est-ce que vous, les recherches que vous avez faites personnellement ou peu importe le cheminement que vous avez jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'on aille dans Colossiens 2, verset 2, et puis Job 37, verset 16. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, Job 37, verset 16. Job 37, verset 16. « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? » La Bible n'est pas contre la science. La Bible simplement dit que les mystères de la science sont dans Dieu, le grand créateur, le grand architecte, le grand designer, qui a tout fait ce qu'on voit à tous les jours de notre vie, que ce soit un arbre ou que ce soit la plus simple des choses que vous regardez. Déjà, c'est important de comprendre que la Bible ne dit pas non. Il n'y a rien de scientifique, la science n'est pas bon, il y a juste Dieu. Ce n'est pas vrai. La Bible, la façon qu'elle en parle, c'est que quand un homme fait une découverte scientifique, vous devriez vous exclamer « Waouh, Dieu est grand ». Parce que tout ce que ça nous révèle, c'est la grandeur de Dieu. On essaye de comprendre comment il a fait les choses, tout simplement. Maintenant, sur quoi repose le christianisme sur les fondations? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait reconnaître, par exemple, la parole de Dieu comme étant autoritaire? Bien, il y a une chose qui est très, très, très importante, qui est selon moi la plus importante, puis on appelle ça les prophéties bibliques. À travers les époques puis les âges, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des prophéties. Il y a différentes religions qui clament avoir quelques prophéties, mais il n'y en a aucune qui a des prophéties aussi béton que la Bible présente. Des prophéties qui sont importantes, qui sont indéniables. Je ne vais pas m'avancer dans les prophéties qui parlent de la fin des temps. Je ne m'avancerai pas dans la prophétie qui parle la prophétie du roi Nebuchadnezzar puis de la statue. À la place, j'ai décidé de m'attarder sur des choses que moi j'appelle des joyaux dans la Bible. Quand tu commences à étudier la Bible, il y a le message qui est de premier degré. Il y a aussi des joyaux qu'on peut découvrir à force de chercher dans la Bible. Puis, je vais vous en présenter comme ça, trois qui sont été pour moi des joyaux que j'ai fait. Wow! devant la Bible, qui est, selon moi, le premier point pour bâtir une foi en christianisme. On va aller dans Genèse 5, verset 21. Genèse 5, verset 21. Ici, on parle de la descendance d'Adam jusqu'à Noé. Puis, on lit ça, puis il y a beaucoup de noms qui sont nommés, puis il y a beaucoup d'âges de gens, à quel âge ils ont enfanté qui, et tout ça. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, cette prophétie-là, c'est pas grave, on va la revoir ensemble. Puis, au verset 21, il est écrit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. » Methuselah, en hébreu, ça veut dire « sa mort l'amena ».« His death shall bring ».« Sa mort l'amènera ». On peut se poser la question, mais sa mort amènera quoi? Ben, on peut juste aller voir quand est-ce qu'il est mort, puis qu'est-ce qui est arrivé à l'année de sa mort. Il n'y a pas tous ces âges-là qu'on lit dans la Bible pour nous ennuyer puis nous donner le goût de dormir. Il y a une raison pour laquelle ces âges-là ont été incorporés. Je vais vous le résumer rapidement pour pas qu'on ait besoin de faire les calculs tout le monde ensemble. Mais en bref, il est au verset 25 que Methuselah a engendré Lémec à l'âge de 187 ans. Puis Lémec a engendré Noé à l'âge de 182 ans. Puis il nous est dit que le déluge est arrivé à 600 ans de Noé. On peut additionner 600 plus 182 ans, l'âge de Lémec quand il a engendré Noah, plus 187, l'âge de Methuselah quand il a engendré Lémec, ça donne un total de 969 ans. Au verset 27, c'est marqué, Methuselah meurt âgé de 969 ans. C'est-à-dire, sa mort a amené quoi? Le déluge. Il y a une prophétie juste dans le nom de Methuselah ici. Là, il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais la personne qui a écrit ça, elle a juste calculé. Là. C'est ceux mettons, qui disent, ah, mais c'est un récit, c'est juste un récit. Puis, il a incorporé une prophétie dans son texte et tout ça, ce n'est pas littéral. Bon, OK, c'est pas de problème. On va aller maintenant dans Psaume 22, versets 17 et 19. Psaume 22, versets 17 et 19. Prophétie que probablement vous connaissez tous. Il est écrit, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » De quoi est-ce qu'il parle, David, dans ce psaume-là? Il parle de Jésus mort à la croix. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus à la croix? Les soldats se sont partagés au sort la tunique de Jésus. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention. Parce que quelqu'un pourrait encore dire, oui, mais les disciples de Jésus, quand ils ont écrit leurs évangiles, ils ont juste rajouté que les soldats ils ont partagé leur tunique par hasard pour que ça fasse comme si la prophétie s'est avérée. Sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que la crucifixion n'existait pas dans le temps de David. Or, il est écrit, ils ont percé mes mains et mes pieds en parlant de la crucifixion de Jésus. À cette époque-là, quand il y avait un brigand, on le lapidait ou on le pendait. La crucifixion a été en pratique de 150 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 320 de notre ère, selon les historiens, puis c'est accepté de tous. Autre fait, les historiens sont tous d'accord pour dire qu'effectivement, Jésus de Nazareth a été crucifié. Ce n'est pas un mystère. Là où il y a débat, c'est à savoir est-ce qu'il était vraiment Dieu. Mais Jésus a existé et il s'est fait crucifier. C'est pas là le débat. Les historiens sont d'accord avec ça. Ils sont aussi d'accord pour dire que les textes de David ont été écrits à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors, moi, je regarde ça, puis je me dis, bon, mais comment est-ce que David aurait pu écrire qu'il allait se faire percer les mains et les pieds alors que cette pratique-là ne se faisait pas dans son temps? À part que ce soit probablement qu'il ait été inspiré de Dieu pour écrire cette prophétie-là. La dernière que je vais vous parler, on n'est pas obligé d'y aller tout le monde ensemble, c'est une qu'on connaît tous aussi, parce que dans Matthieu 26, versets 14 et 15, on nous dit « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Puis tout de suite après, ils nous disent « Pour que s'accomplisse la prophétie des 30 pièces d'argent. » qui nous rappelle à la prophétie de Zacharie 11, verset 12, qui dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas, et il pesa pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ça a été écrit 500 ans environ avant les événements. Le plus étonnant là-dedans, c'est que comme il y a l'inflation de nos jours, et puis dans 500 ans, le dollar ne vaudra pas ce qu'il vaut maintenant, à cette époque-là, un esclave n'était pas échangé pour le prix de 30 cycles d'argent au moment où Zacharie a écrit ça. Or, au moment où Jésus a été livré à la croix, c'est environ ça qu'on payait un esclave, 30 cycles d'argent. La même problématique s'impose. Comment est-ce qu'il aurait pu écrire, 500 ans auparavant, le bon montant qui allait être échangé pour Jésus? Est-ce que vous me suivez? C'est des choses qui ne peuvent pas être vraiment... Ils peuvent être questionnés, mais c'est quand même des choses qui sont écrites, puis qui, historiquement, on se pose des questions, puis on se gratte la tête. Il y a en tout, puis là, c'est le point que j'aime le plus, parce qu'on a parlé des statistiques tout à l'heure, et tout ça, il y a en tout un peu plus de 300 prophéties qui pointent à la venue de Jésus, à son ministère, puis au fait qu'il est Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a des calculs qu'un pasteur a décidé de faire à l'Université de South Florida, Pasteur James Strange. Il a calculé que pour que par hasard une personne naisse et remplisse toutes les conditions des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, ça devrait être d'une possibilité sur 10 exposant 116. Puis on parle, dans ce cas-ci, si on suit les lois scientifiques, on parlerait d'une impossibilité scientifique que ce soit par hasard. Alors, est-ce que je lance la question, est-ce que c'est une loi scientifique que Jésus est Dieu? Moi, je dis amen. Mais vous comprenez le principe. C'est quand même un calcul qui a été fait qui dit, bon, mais il y a tellement de prophéties qui pointent envers une personne, puis historiquement, la vie de Jésus remplit tous ces critères-là. Quand même intéressant. Maintenant, on va passer au prochain point, qui, en gros, je vais ouvrir une petite parenthèse, Jésus, de nos jours, est globalement accepté comme étant un grand enseignant. Quelqu'un qui a fait de bonnes choses, pareil comme Confucius, pareil comme d'autres. Là où les chrétiens sont en désaccord avec un peu la façon dont les gens parlent de Jésus dans le reste du monde, c'est où on dit, mais c'était le Fils de Dieu, puis ils disent, non, c'était un grand enseignant. Il n'y a pas beaucoup de monde, à part peut-être les Juifs et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui disent Jésus est un charlatan de la pire espèce. Les gens ont quand même un certain respect envers Jésus, quand même qu'ils ne sont pas chrétiens, quand même qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ça pose un problème éthique fondamental. C'est qu'il y a trois choses qu'il faut... une chose qu'il faut faire, d'abord, avant d'affirmer si tel personnage historique, qu'est-ce qu'il était. Mais la première chose à faire, c'est d'aller voir ses dires à lui. Qu'est-ce qu'il disait qu'il était? Jésus, il disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il disait aussi, « Je suis dans le Père est en moi, je suis fils de Dieu. » Je suis l'alpha et l'oméga. Il y a beaucoup d'autres choses. Jésus, qu'est-ce qu'il clamait? Je vous pose la question. Il disait qu'il était quoi, autrement dit? Je n'ai pas entendu. Il disait qu'il était Dieu. Alors, en toute honnêteté intellectuelle, si j'ai une discussion avec quelqu'un qui me dit « Jésus, il était un grand enseignant. » Moi, je ne qualifierais pas de grand enseignant quelqu'un qui mentirait sur qui il est. Quelqu'un qui... fait semblant de mourir et ressusciter. J'appelle ça un charlatan. Il y a une incongruence intellectuelle par rapport au fait qu'on lui donne un statut de grand enseignant, de philosophe, ou je ne sais pas, et le fait qu'on refuse d'admettre qu'il est Dieu, alors que c'est ce qu'il clame haut et fort durant ses évangiles. Deuxième option qu'on peut dire, il était fou. Il était fou, il disait qu'il était Dieu, voyons donc, c'est fou ça, tu sais, moi je vais dehors, je dis que je suis Dieu, le monde, ils vont dire quoi, mais t'es fou, il était fou, il était un charlatan, c'est un menteur, mais un autre problème éthiquement, intellectuellement parlant, c'est que si vous avez simplement lu le sermon sur la montagne, c'est difficile de vouloir attribuer un caractère hypocrite, menteur, charlatan à quelqu'un qui prononçait de telles paroles. C'est quelque chose qui est vraiment insensé, d'autant plus que Jésus ne faisait pas ça pour s'amasser des richesses. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle « Reportage d'une infiltrée chez les Raéliens ». Est-ce que vous avez entendu parler des Raéliens? Le gars qui dit « Ah, mais j'ai été enlevé par les extraterrestres, puis c'est eux qui nous ont fait, et puis tout ça ». Puis le reportage de cette journaliste-là démontre que pas mal clairement que c'est n'importe quoi, et qui fait ça pour coucher avec beaucoup de femmes et puis avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Ce qu'on rapporte de Jésus, on nous dit qu'il ne voulait pas de la gloire des hommes, il ne voulait pas de l'argent, il voulait honnêteté intellectuelle. Comment quelqu'un qui fait des beaux sermons comme Jésus sur la montagne, qui ne veut pas la gloire des hommes, pourrait par la suite faker sa mort puis ne jamais réapparaître par la suite? Ça colle pas la route, ça tient pas la route. Alors, dire qu'il est fou, c'est pas honnête intellectuellement. Personnellement, c'est ce que j'ai découvert. Puis la troisième option, mais c'est de dire, mais attends un peu. Sûrement, cet homme était fils de Dieu. Ce que le soldat, au pied de la croix, a affirmé après que la toile s'est déchirée du temple. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde ma foi chrétienne et puis que je l'examine, je veux qu'elle soit bâtie sur de solides croyances. Si on enlève tout ce qu'on vient de parler, je vous pose une question, je vous donne deux choix. On enlève tout ce qu'on vient de parler, je vous donne deux choix. Premier choix, il n'y a aucune raison pourquoi vous êtes ici, vous vous êtes né par pur hasard, puis quand vous mourrez, bien, that's it. Je vous donne un deuxième choix. Il y a un Dieu qui vous aime, qui vous a créé, vous êtes ici pour une raison, puis quand vous mourrez, vous avez une chance à la vie éternelle. Qui choisit A? Qui choisit B? Fait que basé juste là-dessus, on choisit B. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre ici? C'est que ce n'est pas basé juste là-dessus. Non, ce n'est pas une béquille, mon Jésus, parce que je suis pauvre, puis je n'ai pas d'autre choix de croire en Jésus, parce que sinon ma vie est misérable. Non, ce n'est pas je crois pas en Jésus parce que je suis vieux, puis j'approche la mort, puis j'ai bien plus le fun de croire en Jésus que de croire en pas Jésus. Non, ce n'est pas parce que je suis malade, puis que je suis à l'hôpital, puis que je me dis, d'un coup, c'est vrai. C'est pas pour toutes ces raisons-là. C'est parce que ma foi est bâtie sur quelque chose de solide que je décide de croire en l'autorité de la parole de Dieu. Ensuite vient deux autres points, et je vais terminer là-dessus. La Bible, après avoir accepté un peu ça sur base qu'on peut juger plus ou moins solide, il y a beaucoup de points que j'ai parlé aujourd'hui qui pourraient être sujets à discussion, évidemment. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la Bible nous dit il y a l'existence du péché. Elle est catégorique là-dessus. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui sont des gens de doctrine et peu importe, je ne sais pas quoi, qui diminuent ou qui minimisent l'importance du péché. Il y en a qui connaissent Deepak Chopra. Deepak Chopra, il y en a qui connaissent, c'est un grand gourou spirituel indien aux États-Unis, très riche, médecin, rechercheur scientifique. Il vend un paquet de livres. Puis, il était en conférence récemment, puis il disait que, autrement dit, le mal qui est à l'intérieur de nous, les choses pas bonnes, mais c'est pas des choses qu'il faut vraiment se débarrasser, c'est des choses qui font partie de nous, il faut les accepter, puis il faut les transcender en bonnes actions. Suivant cette logique-là, le plus de pas bon on a dans nous, le mieux on est. La Bible nous dit autre chose, nous dit le péché, on doit se séparer de lui. Le péché n'est pas de lui, le péché nous cause la mort. Quand je parle de ces personnes-là, c'est pas. Puis quand je parle des scientifiques de l'évolution, tout ça, c'est pas pour faire une chasse aux sorcières, puis on sort de là, puis avec nos balais, puis tu sais. C'est pas ça le point. Le point, ce n'est pas ça. Les gens qui, comme Deepak Chopra, disent ces choses-là, ils ne cherchent pas nécessairement à mal faire. Je ne peux pas juger leur intention, ce n'est pas mon but. On essaie juste de comprendre l'importance du péché avec un nouveau regard et une nouvelle fondation qu'on a établie ensemble. Récemment, il y a le Dalai Lama qui était à Montréal. Je me lève, je m'en vais pour aller au travail, puis au coin de ma rue, il y a un temple bouddhiste. Il y a des policiers, il y a des diplomates qui sont là, puis il y a une grande banderole qui dit « Bienvenue à sa sainteté, le 14e Dalai Lama ». Moi, je suis comme, waouh, Dalai Lama, il est chez nous. J'appelle Vicky, j'ai dit, on va prendre une photo. Je dis, ben, juste pour dire là, qu'il était là, là, tu sais. Parce que c'est une figure très connue, puis c'est un homme tellement doux, tellement fin. Il y en a qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà entendu parler. Il ne ferait pas de mal à une mouche, on le sait bien. Mais malheureusement, il y a le même discours qui va dans ce sens-là que le mal qui est à l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose qu'on doit un peu accepter, puis qu'on doit transcender en quelque chose de bon vers l'extérieur. Et c'est des choses qui vont à l'opposé de ce que la Bible nous dit par rapport au péché. Donc là est la piste glissante où, en tant que chrétien, il faut faire attention. Puis dernier exemple qui est directement bon dans le christianisme, c'est Joel Osteen. un prédicateur américain, chrétien, qui dit, moi, en entrevue, il dit, moi, il dit, j'appelle pas le péché, le péché. Il dit, je trouve que c'est négatif. Il dit, j'appelle ça des erreurs. Il y a une grosse différence entre des erreurs et un péché. J'ai déjà fait des erreurs qui n'étaient pas des péchés. Or, tous mes péchés étaient des erreurs. Mais tous mes erreurs ne le sont pas. Puis j'ai des nouvelles pour vous, M. Austin. C'est négatif, le péché. C'est pas parce qu'on trouve que c'est négatif qu'il faut l'appeler autrement. Il faut appeler le péché par son nom. Donc, il y a une tendance qui s'en va vers ou bien Dieu n'a jamais créé personne, ou bien Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, ou bien le péché n'existe pas. D'accord, je crois spirituel, c'est beau, il y a quelqu'un qui nous a créé un mané quelque part, mais le péché, non. J'aime pas trop ça, j'aime pas cette idée-là. OK, on n'est pas venu peut-être du singe, mais OK, la spiritualité, mais Jésus, péché, ah non. Il faut faire attention. Il faut savoir que si on choisit d'établir une foi sur une fondation solide, on ne veut pas décider de dire « Ah, tu sais quoi? On a fait une bonne fondation, mais je ne vais pas mettre de poutre au centre dans ma maison. » Du moins, une poutre, de même, là, je ne sais pas, là, ça va gâcher de l'espace dans ma maison, puis tout ça. Mais c'est la poutre qui soutient le reste de ta maison. On ne peut pas agir de la sorte. Le dernier point que j'accorde avec vous aujourd'hui, c'est l'existence d'un sauveur. Je vais vous demander d'aller chercher tout de suite dans vos Bibles Hébreux 11, verset 6. Je vais vous demander d'aller dans vos Bibles Hébreux 11, verset 6. La Bible nous rapporte que ce Dieu créateur est venu mourir sur la croix pour nous. Il a vaincu le péché et la mort et nous laisse pour héritage la vie éternelle, ne demandant rien en retour, si ce n'est que nous croyons en lui. Comme on vient de le constater, il ne nous a pas laissé sans preuve ou sans moyen et sans raison de croire. OK, on a joué aujourd'hui à l'incrédule, à poser des questions qui remettaient en question notre propre foi. On a essayé d'aller jouer à ce jeu-là. On voulait rechercher des arguments qui supportent notre foi, confirment l'inspiration de la Bible, sa véracité. Mais Dieu, dans sa grandeur, l'avait prévu. Dieu, il sait qu'on va chercher. Dieu nous dit dans la Bible, « Cherchez et vous trouverez. » Moi, il y a une chose que je sais, puis que j'ai compris, c'est que Dieu, si on le cherche, il va s'arranger pour qu'on le trouve. Est-ce que vous avez déjà joué à cachette avec un enfant de 5 ans? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà joué à ça. Là, t'es bien caché, puis elle court à force devant toi, puis elle ne te trouve pas. Puis là, à un moment donné, ça fait 2 minutes, ça fait 3 minutes, ça fait 4 minutes. Puis là, tu te dis, mais elle n'aimera pas ça, ça ne me trouve pas, elle va se fâcher. Fait que là, vous êtes à côté de quelque chose, puis là, vous faites exprès là, de l'accrocher pour faire un peu de bruit, pour que là, qu'elle dise, ah, je pense que je t'ai trouvé, puis elle te trouve. Bien, Dieu, chers frères et sœurs, ça, c'est une expérience personnelle, puis vous allez pouvoir peut-être en témoigner, agir un peu de la même manière. Si vous le cherchez très fort, si vous le cherchez ardemment, il ne va pas vous laisser sans preuve, il ne va pas vous laisser sans trouver. Il va faire du bruit, puis vous allez trouver. On va lire le verset, c'est mon verset préféré dans la Bible, le Hébreux 11, verset 6. Vous allez voir pourquoi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai pris cette phrase-là puis je l'ai mis à l'envers. Pour pas qu'on trouve une recette, pas dire qu'il y a une recette miracle, mais qu'on comprenne les ingrédients qui y sont inclus. Donc, c'est au Dieu que nous parlons depuis tantôt que nous voulons être agréables. Or, pour lui être agréable, il nous faut une foi solide. Pour avoir une foi solide, il nous faut s'approcher de lui. Pour s'approcher de lui, bien, il faut croire qu'il existe. Et pour croire qu'il existe, il faut le chercher ardemment. Alors, nous recevrons notre récompense. Alors que Vicky va chanter un chant qui parle du Rédempteur, notre Rédempteur vit. Mon appel va comme suit. j'aimerais que ceux qui désirent chercher ardemment Dieu, bien, tout simplement se laissent bien à l'avant, puis à la fin de la chanson, on va prier tous ensemble. Puis comprenez une chose. Chercher Dieu, ça peut partir à différents niveaux pour chacun d'entre nous. La façon que moi j'ai cherché Dieu au début, là, à part les études que je faisais, c'était Wikipédia. Ridicule comme ça, je faisais des recherches sur les différentes religions, les mouvements, les affaires comme ça. Puis Dieu ne m'a pas laissé sans preuve, il ne m'a pas laissé nulle part. Alors maintenant, je sais comment un peu mieux chercher mon information que Wikipédia, puis c'est pas là-dessus que j'ai pris mes statistiques. Mais vous comprenez le principe. Donc, pour ceux qui souhaitent aujourd'hui renouer une nouvelle alliance avec Dieu ou qui veulent recommencer à jouer à la cachette avec Dieu afin qu'il se laisse trouver par vous et que vous ayez par cela une foi qui est augmentée, bien, venez nous joindre à l'avant alors que Vicky va chanter le chant.
Il vit au soleil, qui établit les limites de l'océan et qui fait briller la lune et les étoiles, qui par ses mots soutient cet univers. Et je sais, mon
Père éternel, nous te remercions de ta présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, de vouloir te laisser trouver. Seigneur, tu n'es pas un Dieu inatteignable, tu n'es pas le Dieu qui est le roi qui ne se soucie pas de son royaume, qui ne pense qu'à lui. Non, Seigneur, tu n'es pas ce Dieu-là. Seigneur, nous voulons renouer une nouvelle alliance avec toi, Seigneur. Nous voulons être sincère dans notre démarche à te trouver. Nous voulons te chercher, sonder tes écritures ou lire des livres qui pourraient nous amener à mieux comprendre notre foi, à mieux savoir sur quoi elle est bâtie et à colmater les fissures de notre fondation ou à la mettre par terre complètement et la rebâtir à neuf, Seigneur. Peut-être certaines personnes ne sont pas levées, Seigneur, mais laisse-toi trouver par eux aussi, Seigneur. Que ce soit par des rencontres avec des gens, que ce soit par des éléments déclencheurs dans leur vie, Seigneur, ça te regarde. Tu sais ce que tu fais. Et nous ne voulons que d'être des bons serviteurs et nous voulons s'approcher de toi Nous voulons être agréables. Nous voulons une plus grande foi, Seigneur, car tu nous dis que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.